qu'il a vécu ne soit plus de ce monde. Je pense donc que les médias n'auront strictement, enfin, très peu d'influence sur l'élection du 9 novembre. Tout, n'est-ce pas, semble chaotique.
Alors, c'est ça qui va conclure notre émission parce qu'on n'a plus de temps. J'aurais aimé qu'on parle, bon, est-ce que les médias influencent, oui ou non. Mais vous avez une vision de deux personnes complètement différentes sur l'impact des médias. Et maintenant, c'est à vous de vous informer en lisant sur les médias. Peut-être que vous allez pouvoir développer votre propre théorie.
Que trouve-t-on à la racine carrée de l'actualité? Au logarithme du fait? À une puissance exponentielle? Facile. 5 filles, 60 minutes. Bienvenue à Exposant 4.
Hey, salut tout le monde, c'est déjà encore Tommy Godette pour sa deuxième émission de La Cour à Scrap. Cette semaine, on a plein de super découvertes pour vous. Je vous ai amené une histoire de He-Man par le pouvoir du crâne ancestral. On va aussi mettre des thèmes de Megaman, bon vieux classique du Nintendo. Une réflexion sur Godzilla, le gros monstre japonais qui crache la radiation. On va parler de Earthbound aussi, classique de Super Nintendo. Et un peu sur le Yellow Kid de Monsieur Outcolt. Et enfin, salade de fruits. Sûrement le fin fond du fin fond en matière d'audio pas bon. Alors, pour l'instant, j'ai un ami ici, Julien, en studio, qui va nous parler. La cour à scrap devient politique un instant. Alors, je te laisse la parole, Julien.
Oui, juste pour un instant. En fait, dans le... Les gens nous ont peut-être vu, je représente le comité pour la République du Canada. Au niveau international, le mouvement de jeunes de La Roche. Les gens nous ont peut-être vu un peu partout à Montréal, où on fait des tables dans la rue... On essaie de faire bouger la population, quoi. Et là, je voudrais m'adresser à, surtout aux étudiants, s'il y en a qui écoutent, dans le contexte où là, il y a une mobilisation dans les universités et les cégeps au sujet d'une grève générale, au sujet de combattre les coupures dans les budgets, tout ça.
Ouais, on sait que le gentil M. Charest nous a quand même passé sur le dos assez, hein?
Ouais, ben, il fait... Il fait sa job de bon capitaliste, quoi.
Effectivement. Ben, je te remercie, Julien. Je vais revenir en fin d'émission parce qu'on a quand même un rendez-vous à vous proposer ce vendredi à 19h. Pour l'instant, je vais faire mes salutations. On dit un gros salut au Chanomatoscope ainsi qu'à Stéphane Côté, deux bons bodies, et au très sexy Marie-Houd, Isabella Falsted et Marie-Ève. Alors, en musique, pour commencer, on a le gentil Gustav Holst et Uranus, le magicien. Une composition de 1915. Je reviens juste après. Salut!
We'll be right back.
elle a quand même son petit quelque chose, ça. Hein? C'est au début du siècle, en 1915, que Gustav Holst a eu l'idée de composer une chanson thème sur chacune des planètes qui étaient connues alors dans le système solaire. On n'oublie pas que Pluton a été découvert au courant des années 40 de notre, ben, du siècle passé, en fait. Le bug est passé, on a survécu et tout va pour le mieux. Alors, pour rester dans les trésors du passé, on va parler classique japonais. Et qui ne connaît pas Godzilla? Ce célèbre gros monstre japonais en caoutchouc, vedette d'une quinzaine de films. Ah, mais qui connaît réellement Godzilla, le roi des monstres? Eh bien, Godzilla est né en 1953 de la tête de Tomoyuki Tanada. Oh, ça, c'est un gars qui est né à cette île, je pense. Environ 8 ans après la première bombe atomique, il est plutôt logique qu'un cinéaste nippon, peuple pour lequel le dragon a une telle portée spirituelle, imagine un lézard géant instoppable qui crache des radiations et qui détruit des villes. Tadam! Mais malgré son allure pseudo-terrifiante, son souffle dévastateur et sa force gargantuesque, Godzilla n'est en fait qu'un animal comme les autres. Eh oui, il n'agit jamais gratuitement et ne fait que défendre son territoire lorsqu'il est menacé. Godzilla n'est pas méchant. C'est plutôt le seigneur et maître de la création qui, tout comme le tigre dans sa jungle, protège son habitat contre ses envahisseurs potentiels. Et que dire de la grosse batch de monstres géants qui tombèrent sous ses griffes? Mechagodzilla, lubie d'un mégalomane japonais. Le Monster Zero qui patrouillait autrefois la galaxie à la recherche du challenge ultime avant de croiser Godzilla. King Ghidorah, le seul ayant jamais réussi à mettre Godzilla au plancher. Autant de monstres qui ont fait prospérer l'industrie du rubber au Japon. Pour avoir vu toute la série de films, je conseille aux curieux de débuter par le visionnement du tout premier film, c'est-à-dire Godzilla, pour la saveur historique, bien sûr, ainsi que du dernier, Godzilla 2000, parce qu'il résume bien toute la série. Car, malheureusement, bien que la légende du personnage de Godzilla en elle-même soit tenace et intéressante, les films ne valent pas grand-chose. Alors, en moyenne, pour la série de Godzilla, on parle de -5.5. Maintenant, on s'en va avec un de mes groupes préférés. Que cela déplaise à mon directeur musical ou non, je vous présente The Police avec une de leurs tunes meilleures. Walking on the Moon, à tantôt.
side.
How you do that, Scott? Like, what's his name there? Drummer of 15 Toms there. What's his name? Single bullet loaded in each one. Take my place. Please tell my friends from outer space.
I'll take this call from Valhalla.
Excuse me, now I've got a call. I got some good friends there. Revolution calls. Take my place because you are my son.
Oh boy, c'est puissant. J'essaie de me retenir de mettre du Frank Black et ou Pixies pour une deuxième semaine d'affilée, mais quand même, on peut pas demander trop, hein? Le show s'en vient, on va en garder un décompte jusque-là. Alors, je voudrais parler à ma maman un petit peu. Écoute, maman, Là, mon coloc qui vient de ramener des desserts, puis là, j'y ai parlé des tiens, fait qu'il va vraiment falloir que tu nous fasses une batch de macarons, de corodates, puis en tout cas, tous tes grands classiques, ainsi que ta fameuse sauce à spaghetti pour que je convertisse une gang, comment dire, d'impies. Alors, on parle Iman. Les plus âgés d'entre vous se souviendront sans doute de ce personnage tout en muscles qui vient de reparaître sur une toute nouvelle série animée sur les ondes de Fox TV. Iman, traduction « il-homme », est en fait le prince Adam qui, virgule, grâce à son glaive magique, se transforme, ainsi que sa grosse lopette de tigre vert, en guerrier invulnérable. À l'image de Clark Kent qui devient Superman, le prince Adam et son alter ego ont tout à fait le même look. Excepté que He-Man se promène en bédaine pour rien et que le prince porte le même t-shirt blanc dans chacun des 300 épisodes de la série. Alors on a pour vous, tadam, une histoire de He-Man racontée par un professionnel. Ça va faire mal. À tantôt!
La plus sombre deviendra le soleil. Qu'importe le nombre d'ennemis au ciel, afin que survivent les étoiles. Notre seule devise, triompher du mal.
50 000, nous n'avons pas peur. Tout est possible quand la force vient du cœur. Nous sommes les maîtres de l'univers. Nous sommes les maîtres de l'univers.
Le soleil resplendissait sur la planète Eternia. Le prince Adam, le fils du roi Randor et de la reine Marlène, jouait sous les arbres de la forêt éternelle. Le jeune prince aimait se promener dans les bois profonds et mystérieux qui entouraient son château. Son tigre domestique, Kringer, courait à ses côtés. Soudain, le ciel s'assombrit, tandis qu'une immense ombre noire venait s'abattre sur la forêt. Le prince Adam regarda au-dessus de lui et vit un faucon gigantesque qui traversait le ciel d'azur. L'oiseau géant descendit et vint atterrir dans une clairière, pas très loin de là. Le prince Adam n'avait pas peur. Il avait reconnu cet oiseau fantastique et la personne qui le chevauchait. C'était le professeur et l'ami du prince Adam, le maître d'armes. Depuis son enfance, le prince Adam avait été éduqué par le maître d'armes. Le jeune prince s'aperçut tout de suite que quelque chose n'allait pas, tandis que le maître d'armes courait vers lui à travers l'épais sous-bois. « Vous devez tout de suite venir avec moi, sire !» cria le maître d'armes d'une voix qui réveilla les échos de la forêt. « Que se passe-t-il » demanda le prince Adam. « Le méchant Skeletor a trouvé le chemin qui mène au château des ombres. » Si ce maudit Skeletor arrive à pénétrer dans le château, il peut découvrir la sagesse du conseil des anciens. Alors tout sera perdu. Je suis prêt à me battre, répondit le brave jeune prince. Adam saisit le glaive magique et le leva très haut au-dessus de sa tête. D'une voix forte, il cria vers le ciel. Par le pouvoir du crâne ancestral! En un instant, la forêt fut illuminée d'un éclair de lumière blanche. Et un gigantesque éclair de pure énergie vint entourer le jeune prince. L'éblouissante lumière s'éteignit, le maître d'armes put voir que le prince Adam avait été transformé. Il était maintenant Musclor, le champion d'Eternia. Il était plus grand que le prince et ses muscles brillaient sous le soleil. À ses côtés, là où quelques instants auparavant se trouvait Kringer, son tigre domestique, se dressait le tigre de combat. Sa couleur avait changé, il portait une selle et un casque. le puissant tigre de combat, était prêt pour la bataille. Tigre de combat, cria Musclor, tu dois m'emmener au château des ombres, nous devons arrêter Skeletor. Musclor sauta sur le dos du colossal félin et ensemble, ils bondirent à travers la forêt. Pendant ce temps, dans l'épaisse forêt qui entourait le château des ombres, Skeletor et son compagnon Pantor s'approchaient du mystérieux château. Son horrible voix sortait de son crâne. « Nous y sommes presque. Bientôt nous serons dans le château des ombres et nous nous emparerons du pouvoir qu'il abrite. Alors, rien ne sera capable de m'arrêter. Alors, rien ne pourra m'empêcher de prendre le contrôle de cette planète. Rien, pas même Musclor. » Soudain, de derrière un buisson, Musclor et le tigre de combat bondirent. Quand Skeletor et Pantor aperçurent leurs ennemis, ils eurent un moment de frayeur. « Aussi longtemps que je vivrai, tu n'entreras jamais dans le château des ombres !» cria Musclor. Et le tigre de combat se dressa d'un bond terrifiant. Musclor saisit son glaive et les deux ennemis héréditaires coururent l'un vers l'autre pour l'ultime bataille. Skeletor était puissant, mais pas assez pour vaincre Musclor. La puissance de Musclor était la force du bien. Et dans l'univers, le bien triomphe toujours du mal. En une fraction de seconde, un rayon de pure énergie jaillit du glaive magique et vint frapper Skeletor, le désarçonnant. Il vint s'abattre dans l'herbe profonde. Il courut piteusement au plus profond des bois pour se mettre à l'abri. Une fois de plus, le méchant Skeletor avait été tenu en échec. À la tombée du jour, Musclor retourna chez lui. À l'abri des regards indiscrets, Musclor et le tigre de combat se transformèrent de nouveau en Prince Adam et Kringer. Personne ne doit connaître sa véritable identité. Seul le maître d'armes connaît son fantastique secret. Grâce à ses pouvoirs, Musclor pourra continuer à combattre les forces du mal. Lui et ses amis sont vraiment les maîtres de l'univers.
Et boy, hein, c'est dur de trouver quelque chose à répondre. Essayez d'aller vous regarder dans le miroir, droit dans les yeux, et de vous dire « j'ai adoré ça ». Ça sera pas facile. Alors, je vous rappelle les commentaires que Julien est venu passer. Il y a une espèce de mouvement de grève qui fomente tranquillement. Alors, vendredi, les 19h, vendredi qui s'en vient, au Centre communautaire de Côte-des-Neiges, il va y avoir une conférence sur le sujet. Bien sûr, le Centre communautaire Côte-des-Neiges est à côté du métro Côte-des-Neiges. Alors, obligez-moi pas à redire Côte-des-Neiges une autre fois. On n'oublie pas aussi d'aller au www.shooby.com, S-H-O-O-B-Y.com. C'est comme Scooby, mais c'est Shooby. Alors, maintenant, je regarde mes notes. Oh boy, la prochaine minute et demie s'adresse aux trop peu nombreux amateurs de role-playing games sur console. Alors les 2-3 gars à qui je suis en train de m'adresser se rappellent très bien le Super Nintendo, cette console que l'on retrouve encore de nos jours dans un pourcentage très élevé de caves partout sur la planète. Le Super Nintendo est la console qui, à mon sens, a offert le plus grand choix d'excellents jeux de rôle aux amateurs du genre. Et, quelque part dans cette pléiade d'excellents jeux, Earthbound. Encore une fois, on doit cet excellent jeu, pour le redire une autre fois, à Nintendo. En gros, on joue Ness, un petit garçon de 8 ans qui, à mesure que le jeu avance, développe des pouvoirs psy étonnants et découvre des amis dévoués à la cause, soit sauver la planète de Gygax, le destructeur de monde. Au début de son aventure, Ness se bat contre les punks de l'arcade du coin à l'aide de son bat de baseball. Ouh. Plus tard, il affrontera des ennemis comme des Kraken et des extraterrestres zombies à grands coups de batte de baseball des ligues majeures. Waouh, l'évolution! Et l'univers de Earthbound est on ne peut plus impliquant. Que ce soit les coups de téléphone sporadiques que l'on reçoit de la part de notre mère qui nous conseille de laisser le jeu pour aller jouer dehors, le photographe mystère qui passe prendre des souvenirs de temps à autre, ou les très sympathiques Monsieur Saturne, je suis un gros fan. Earthbound offre une expérience de jeu vidéo unique qui vieillit merveilleusement bien. Alors on n'oublie pas que le jeu a déjà 12 ans et qu'il peut aisément encore fournir plus de plaisir que la majorité des role-playing actuels. Pour Earthbound, un bon gros 9 sur 10. Maintenant, on va continuer la musique avec un groupe de gelés, s'il en est, les Grateful Dead. À bientôt!
Pour celle-là, c'est du solide. C'était Grateful Dead. On était dans les années 70, mais maintenant, on est à l'émission La Cour à Scrap, bien sûr, et je ne saurais trop vous inviter à aller sur shoubi.com. Je sais que j'en ai parlé tantôt, mais c'est important. Alors, bien qu'on soit un petit peu Non, en fait, c'est qu'on est un petit peu en retard sur le coefficient douteux, qui est le mandat de l'émission. Hein. Mais j'ai tout gardé ça dans un beau gros pain qu'on va vous faire passer avant longtemps. Les extraits audio qui suivent proviennent d'une immondice audiovisuelle intitulée « Les exterminateurs de l'an 3000 ». J'ai pas fini de dire le titre, vous allez voir. Vous allez constater de l'originalité de la production. Je peux pas vous décrire la pochette, mais j'ai le résumé. Ah ah, donc on est après la guerre atomique. La Terre est devenue un territoire aride et dévasté. Une communauté de survivants décide d'organiser une expédition pour rechercher l'eau nécessaire à sa survie. Le convoi est attaqué par une horde d'exterminateurs. Oh! Tommy, un garçonnet au bras gauche artificiel, est le seul rescapé. Il fera la connaissance d'aliens, de triches et de papillons. Les trois adultes parviendront-ils à vaincre la sinistre bande de Crazy Bull? Moi, je dis que oui. Je sais pas, là, mais je dis que oui. Alors, ce film, Les Exterminateurs de l'an 3000, illustre très bien un style important au sein de la grande famille des films douteux, les post-apocalyptiques. Invariablement, les post-apocalyptiques mettent en vedette un héros bourru et antipathique, une fille qui crie, un spécialiste en technologie de l'avant-troisième guerre mondiale nucléaire, ainsi qu'un élément comique traditionnel qui sera soit un noir de film qui parle beaucoup, soit un demi-lune à la Indiana Jones. Tout bon film post-apocalyptique racontera les aventures de ce groupe pour retrouver 1. Des femmes fertiles, 2. De l'eau et ou 3. De l'énergie. La beauté de « Les exterminateurs de l'an 3000 », c'est que tous les éléments sont réunis. Un héros patibulaire rencontre un petit garçon stupide, une poupoune fertile, et va rejoindre son ami, Papillon, le vieux scientifique qui se souvient du monde d'avant la Troisième Guerre mondiale nucléaire. Tous ensemble, ils partent à la recherche d'une source d'eau potable et d'énergie. Maintenant, si on est en l'an 3000, comment se fait-il que les chars du film soient tous des vieux Dodge 76 rouillés? Pourquoi les ordinateurs de l'an 3000 ressemblent-ils à des Vic 20? Pourquoi les coiffeurs des personnages ressemblent-elles aux figures de mode qui d'il y a 20 ans? Pourquoi Bowser n'a-t-il jamais creusé un trou trop grand devant son château pour que Mario puisse le franchir? Vraiment, même pour un film italien du début des 80s, les exterminateurs de l'an 3000 sont particulièrement douteux. Donc, une dernière fois, pour les exterminateurs de l'an 3000, -7.5. Je vous shoote les extraits, ça fait mal.
Tommy, mais qu'est-ce que tu fais là?
Je veux savoir où est-ce qu'est mon père.
Bon, qu'est-ce qu'on fait?
C'est trop tard pour revenir en arrière. Il faut l'emmener avec nous.
Tu te rends compte?
Je te jure, je vous ennuierai pas. Je resterai bien sage.
Si c'était une promenade, je ne me ferais aucun souci, Tommy. Mais ce n'est pas le cas, on peut nous attaquer d'un moment à l'autre.
Oui, mais j'ai mon porte-bonheur.
Espérons qu'il fonctionne. On en aura bientôt besoin. Regarde, John, ils sont derrière nous.
Appuie sur ce maudit champignon de mer. Maintenant, on les tient. À mort.
Petit.
Tommy.
Est-ce que tu connais exactement l'endroit où on peut trouver l'eau? Et est-ce que c'est loin?
Pas très.
Vers l'ouest, c'est ça?
Non.
À l'est, alors?
Peut-être.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas confiance en moi? Je boirai pas tout seul.
Mon père est mort pour cette eau. Et je dois réussir à la ramener pour les miens. Mais aussi en souvenir de mon père.
Je comprends. Si je t'accompagne, qu'est-ce que je gagne à part un coup à boire?
Un jour, la terre recommencera à fleurir. Grâce à cette eau, et grâce à toi, si tu veux m'aider. Ça ne te suffit pas?
Non, ça ne suffit pas.
Tu es un barbare, alien. C'est là la différence entre toi et moi.
Dans notre putain de monde de merde, les barbares aussi sont nécessaires. Parce que sans moi, tu ne réussiras jamais à retrouver ton eau de malheur.
On en reparlera.
Ça va, ça va. Quelle peste tu fais à propos de ton contrat? Je te donnerai ma réponse quand on sera arrivé.
D'accord.
Et maintenant, allons-y. Parle.
Il n'est pas comme les autres garçons. Il paraît être insensible à la douleur. Si tu sais vraiment où se trouve l'eau, tu as intérêt à me le dire tout de suite.
Il ne sent rien.
C'est fini, Trish. C'est fini.
Ne dis rien, ne bouge pas. Ça va aller, courage.
Alien, où il est?
Alien n'est pas là. Il se bat avec Crazy Bull, mais il va gagner.
Ah, bravo. Dis-lui que c'est un grand fils de pute. Mais... Et dis-lui aussi que je l'ai toujours aimé.
Et Papillon décède. C'est tellement triste. Dans la même séquence audio, en fait, dans le même extrait de séquence audio, on a eu un « C'est personnel ». C'était pour son père que le petit garçon faisait ça. Et on a eu un « Continuer sans moi ». Très important comme concept quand on écoute du douteux. Et on poursuit dans le très, très, très douteux. Là, ce qu'il y a juste après, là, ça s'appelle « Salade de fruits ». Et je crois qu'il est très, très, très important que je mentionne que Choc ne peut être tenu responsable des lésions éventuelles provoquées par cette chose. Ne vous sauvez pas, ça dure un éternel 3 minutes, au milieu desquelles je vous paye un break. À bientôt. Bon, il y a quelque chose qui va pas encore. C'est ça qui arrive hein, quand on est débutant. On va continuer d'abord en musique, bien sûr, avec Marillion et Waterhole. Je vous reviens avec Salade de fruits, ça sera pas long. C'est un remetté à plus tard. Ça aussi, c'est solide. Au tournant des années 80, la majorité des membres du groupe Genesis ont décidé de partir en carrière solo tout en n'oubliant pas leur groupe initial. Ça ici, on a entendu Marillion, qui est un des groupes que Tony Banks a formé. Tony Banks, qui est le claviériste, bien sûr, de Genesis. Marillion tire leur nom du Silmarillion, un roman que plusieurs personnes d'entre vous connaissent, je suis sûr et certain. Alors, on va retourner avec Salade de fruits. J'ai tout compris ce qui marchait pas. Je me suis trompé de tape deck. Je suis sûr que ça vous intéresse. Donc, je rementionne que Choc ne peut être tenu responsable des éventuelles lésions. On y va. 1 minute et demie, je vous donne un break après. À bientôt.
Salade de fruits, yeah. Salade de fruits, salade de fruits. salade de fruits. Salade de fruits, salade de fruits, salade de fruits, salade de fruits. Ma belle salade de fruits. Yeah. Salade de fruits, salade de fruits, salade de fruits, salade de fruits.
Ça semble interminable, on est rendu à la moitié. Salade de fruits est une toune 100% québécoise. Mais ce n'est que récemment que quelqu'un m'a fait réaliser que le suave chanteur disait « ma belle salade de fruits » et non pas « je m'appelle salade de fruits ». Dans un cas comme dans l'autre, ça fait très mal. Alors on lâche pas, il reste à peu près une minute. À tantôt!
Yeah. Salade de fruits. Salade de fruits, salade de fruits, salade de fruits. Ma belle salade de fruits.
Salade de fruits.
Ma belle salade de fruits.
Salade de fruits.
Ma belle salade de fruits. Salade de fruits.
Salade de fruits.
Ma belle salade de fruits.
Salade de fruits.
Ma belle salade de fruits.
Salade de fruits.
Ma belle salade de fruits. Ma belle salade de fruits. Ma belle salade de fruits.
C'est totalement interminable. Totalement interminable. Alors, je dis un bravo très sincère à tous les guerriers qui ont réussi à passer au travers. Vous allez pouvoir dire à tout le monde que le 13 octobre 2004, vous y étiez. Alors, deux petits faits rapides comme ça. Saviez-vous que, selon le Music World, un magazine anglais, la toune la plus mauvaise de tous les temps est québécoise? En effet, Agadou, de Sieur Patrick Zabé, serait, toujours selon ce magazine, la plus basse de gamme de toutes les réalisations audio. Bravo à M. Zabé. Saviez-vous que, par année, les êtres humains moyens dépensent plus en cosmétiques qu'en aide internationale? Un autre fait qui fait réfléchir, ça, quand même. Je vous propose une dernière chanson pour cette émission-ci. Une de mes préférées, j'ai vu ça live grâce à mon ami Louis. Merci, Louis, si t'écoutes. Alors, Peter Gabriel, bien sûr, et Salisbury Hill. À tantôt. Alors, en terminant l'émission, quelques mots sur Richard Outcault, icône éternelle de la bande dessinée, ainsi que sur son Yellow Kid. Alors, les deux trois spécialistes mondiaux en bande dessinée s'obstinent à savoir lequel entre Outcault et Mackey, deux génies de bande dessinée du début du siècle, auraient inventé la mise en page façon moderne, c'est-à-dire diviser une page en cases, le format de diffusion de bande dessinée auquel on est aujourd'hui habitué. Cependant, nul n'enlève à Richard Outcault, BDiste américain du début du siècle dernier, la paternité du phylactère. Le phylactère, c'est la bulle dans laquelle les pensées et les paroles des personnages de bande dessinée sont écrites. Le Yellow Kid, bande dessinée racontant les avatars d'un petit chinois turbulent du New York de 1900, laissa s'échapper un « yeah » sonore dans une bulle en 1896. Y-E-A-H, point d'exclamation. Voilà la première bulle de l'histoire de la bande dessinée. Merci, Outcault. Alors, je vous rappelle, bien sûr, de ne pas manquer la conférence au Centre communautaire Côte-des-Neiges, vendredi 19h prochain. Ça va être sur le sujet que Julien nous a parlé tantôt, c'est-à-dire une petite grève qui fomente. On va essayer de montrer à Jean Charest, notre premier ministre préféré, que peut-être que ce serait une bonne idée d'investir dans ces étudiants à un moment donné. Alors, pour la semaine prochaine, je vais vous présenter deux chansons de Xmas. Ça, c'est quelqu'un qui vient de Rouen, qui est mon ami, à qui je dis salut. Je vais vous amener une chanson de Tiny Tim, le très, très viril. Ça, c'est celui qui faisait la voix du Nowhere Man dans Yellow Submarine, le film des Beatles. Une version francophone de Eye of the Tiger. Ça existe et c'est très mauvais. Ainsi que des extraits audio de Dernier Assaut. Je ne saurais trop vous encourager d'aller voir Shubi.com, c'est comme Scooby, mais c'est Shubi. Et avec ce que vous avez entendu aujourd'hui, je vous garantis que peu importe ce que vous allez entendre dans le futur, vous avez déjà entendu pire. À bientôt, passez une bonne semaine. Je vous laisse avec des extraits audio de Mega Man, bon vieux classique du Nintendo.